une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Et bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Ce soir, on est en compagnie de Camille et Aurélien, avec aussi Viviane, moi-même Alice, Zoé dans le studio. et on va présenter le Festival d'art numérique DNA 2024. Salut.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Tout d'abord, pour commencer, est-ce qu'on pourrait introduire le terme art numérique rapidement ?
Alors oui, on peut introduire art numérique. Donc DNA, c'est le Festival des arts numériques. Ce qu'on met derrière le mot art numérique, c'est pas un style, c'est pas un genre. C'est vraiment un processus un peu dans la création artistique dans lequel les artistes créent ou détournent des outils numériques, que ce soit électronique ou informatique. Mais en partant de ça, on peut arriver à de la création sonore, de la création vidéo, de la création plastique et de l'art vivant. Donc, c'est pas un genre ou un style en tant que tel, c'est plus une démarche d'artiste et de création. Et ça amène à plein de résultats différents et c'est ça qu'on essaie de montrer dans le festival.
Le festival, justement, il est organisé par votre association qui s'appelle Arcane. Ça veut dire quoi, Arcane ?
C'est l'association Ressources pour la création de l'art numérique. Voilà, l'acronyme.
Et c'est une association qui a été créée quand ?
Alors, en 2017, de mémoire, il me semble, avec une première édition en 2018. À l'origine, c'est une association créée par Jérôme Villeneuve avec l'association Indécence. Et donc avec une première édition en 2018. Voilà. Et avec une équipe tournante lors des différentes éditions à partir de 2018.
En tout cas, Arcane, il y a vraiment l'idée de faire connaître le monde des arts numériques au grand public et aussi de fédérer les artistes autour de ça. Parce que la plupart des artistes en fait, qui gravitent autour du monde numérique, ils vont exposer dans des festivals qui sont liés au genre sur lequel ils travaillent. Mais c'est rare en fait, d'avoir des événements sur lesquels il n'y a vraiment que des artistes art numérique. Et donc on sert à la fois de liens et de liants pour que les artistes se rencontrent et se connaissent. Et à la fois on sert aussi pour faire découvrir ça au plus grand nombre. Dans nos missions, on a aussi des ateliers avec des scolaires. Et puis, on accompagne aussi un peu des artistes sur la production.
Tu parles de différents genres dans les arts numériques. C'est lesquels qui sont les plus représentés, en tout cas dans votre programmation ou dans votre vision des choses ?
Bah vraiment c'est tous en fait, c'est vraiment une volonté du festival de montrer le panel des possibles. Donc là je parlais de il parle de la musique, de l'art sonore, de l'art vidéo, du net art. L'année dernière on avait beaucoup de propositions autour de l'IA. Donc on a présenté des artistes qui travaillaient autour de l'IA générative. Parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui parlaient de ça. Cette année, il y en a moins. Ça va dépendre aussi de ce qu'on a. Mais nous, c'est vraiment le cœur du cœur de notre programmation. C'est de montrer la pluralité de tout ce qu'il peut y avoir. Et la particularité depuis 2 ans, c'est qu'on a vraiment une partie exposition dans le festival et une partie dédiée aux performances. Où là, du coup, on a tout le champ en plus... de la musique live, des lives audiovisuels, de la danse, tout ça.
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce festival. Justement, cet éclectisme que tu as déjà souligné. Moi, déjà, ce qui m'avait frappé, c'est... j'étais très contente de voir un festival d'art numérique à Grenoble. et de pouvoir voir d'autres artistes que je ne connaissais pas, puisqu'il y a aussi une volonté de promouvoir cette scène émergente, qui continue toujours d'ailleurs de grandir, de se renouveler, de chercher d'autres manières de travailler cette matière numérique. C'était un festival qui me paraissait aussi, alors peut-être que je me trompe, hein, mais qui ne paraissait pas aussi chevillé à des structures comme on peut avoir à Laval, au Bois Numérique, enfin tous ces grands festivals qui sont dans notre paysage français. Et donc il y avait aussi peut-être la volonté d'une ouverture, de créer d'autres lieux de rencontre. Et j'ai trouvé ça assez courageux. Alors, peut-être que c'est ma lecture et que vous pourrez me contredire là-dessus.
Non, je pense que tu es tout à fait dans la raison et dans le juste, quoi.
Et ben, justement, du coup, c'est intéressant parce que souvent, alors, quand je suis l'art numérique, enfin, moi, je travaille depuis longtemps dans les arts numériques, mais c'est vrai que les artistes, je les connais parce que je les vois programmer parfois à différents lieux, en France, mais en Europe aussi, puisqu'il y a des scènes européennes qui sont assez intéressantes aussi. Et c'est des espèces de rencontres un peu... on a ces rendez-vous comme ça annuels, on s'est balisé, mais il manquait aussi parfois d'autres espaces. On devait investir, je crois que vous investissez justement d'autres espaces, peut-être ceux qui manquaient, pour justement... rendre encore plus accessibles ces arts numériques, qu'on penserait peut-être parfois pas assez accessibles parce que justement il y a le côté technologique ou technique qui échappe, qui croit échapper, alors même qu'on est entouré de techniques numériques dans nos poches, nos capteurs, dans nos maisons, enfin il y a plein de choses comme ça qui nous entourent et on n'a pas très très bien regardé. Et je pense que quand moi je vois, et même la programmation de cette édition, alors vous reviendrez là-dessus, mais je vois aussi un art numérique qui a envie de revenir à des choses sensibles, à des choses partageables, où on revient sur des interfaces visibles, après le tout invisible, les toutes miniaturisations. Ces espaces polysensoriels qu'on avait il y a quelques années. Ici, on a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'un geste collectif. Et je trouve ça très intéressant dans cette programmation et dans votre démarche. Alors, c'est peut-être un parti pris, hein, je ne connais pas toute la démarche de votre association, mais c'est pour moi une magnifique ouverture et une cheville, enfin un maillon qui manquait dans tout ce paysage de programmation français et européen.
Bah écoute, ça fait très plaisir de l'entendre. Alors pour revenir effectivement sur l'association en tant que telle, Camille a dit que c'était organisé à la base par Jérôme Villeneuve. En tout cas, on était vraiment un groupe d'amis intéressés par le sujet à avoir monté ça, mais on n'a jamais été une structure. La plupart des festivals art numérique aujourd'hui sont soit montés par des municipalités, soit montés par... des lieux, donc ça peut être des scènes, des centres culturels. Nous, on n'est pas là-dedans. On est une asso, on est quelque part une grosse bande d'amis, pour faire simple. Et en fait, on a vraiment le champ libre sur la programmation. Aujourd'hui, la programmation, elle est faite de manière collégiale dans l'association. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est assez unique et ça explique des choses. On n'est pas dans... On cherche pas forcément à... On n'a pas des comptes à rendre, on va dire, sur les choix qu'on fait en termes de programmation, de politique culturelle. On programme un peu qui on a envie et qui on sent. Et je pense qu'il y a plusieurs professionnels qui viennent pour programmer sur le festival parce que voilà, peut-être qu'on a cette intuition ou ce feeling de mettre en avant des artistes qui ne sont pas encore connus et qui sont émergents. En tout cas, nous, on a voulu, d'une manière ou d'une autre, décloisonner ce sujet-là. Des festivals art numérique, il n'y en a pas beaucoup en France, quoi. On est quand même dans un tout petit milieu. Et effectivement, d'avoir un festival qui est quelque part entre amis, c'est un grand mot, mais c'est tout ça pour dire qu'en fait on est hyper ouvert sur le public, tout est gratuit, il y a vraiment une volonté d'ouverture depuis le tout début, et vraiment aussi une volonté de faire connaître ça au grand public, donc ça va sur plein de démarches, mais je me souviens qu'au tout début, les premières éditions, on prenait les gens dans la rue, on leur disait mais venez voir, mais vous connaissez pas, mais venez. Et en fait, il faut savoir que le mot numérique, globalement, aujourd'hui, c'est un mot qui est galvaudé, et qui est galvaudé sur plusieurs choses, notamment le fait que le mot numérique, on s'en sert pour dire qu'on va mettre les démarches dématérialisées. Ça, c'est le gros mot. Et puis le gros mot, c'est le mot de la tech. Donc nous, on n'est pas du tout le festival de la tech. Nous, on est vraiment le festival des artistes qui, dans leur démarche, vont venir expérimenter des choses en créant des machines, détournant des logiciels. On est vraiment dans de la bidouille, des fois de l'expérimentation, beaucoup de la recherche, mais en tout cas, c'est toujours des artistes qui mettent du sens dans ce qu'ils font. Et tous les artistes qui sont programmés sur DNA depuis l'édition numéro 1, ils ont tous une démarche qui est toujours unique et surtout un sens qu'ils mettent derrière les œuvres qu'ils font. Donc on est très très loin, si vous voulez, des fois on peut faire des raccourcis en disant ouais, on est là pour faire de la démo sur de la tech, qu'en fait on n'est pas du tout là-dedans sur DNA. C'est tous des artistes qui, en fait, qui ont des démarches uniques, et quand on fera un tour de la programmation, on aura le temps de découvrir tout ça.
Moi je trouve, alors juste une petite réflexion, mais je trouve ça assez important de revenir sur cette démarche artistique, parce que je crois qu'aussi les arts numériques, dans certaines années, plus en avant, ont souffert un peu de ce côté un peu spectatoriel et démonstration technophile qui empêchait de aussi rendre compte d'un artiste qui cherche, qui doute, qui est dans des processus parfois incertains, parce que la machine pouvait peut-être tout dans les imaginaires. Et là, on revient vraiment au cœur d'un geste artistique, c'est-à-dire une démarche. Quel que soit l'outil, et l'outil, même s'il est numérique, supposé peut-être plus fiable qu'autre chose, il est aussi à chercher, à interroger, à remettre en cause. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais, à essayer aussi. Et dans cette sensibilité à la démarche artistique, alors j'enchaîne, puisque vous avez parlé un petit peu d'Arcane, moi, j'aurais bien voulu savoir... D'où est-ce que vous venez, cette bande d'amis? Est-ce que vous avez des profils différents? Vous venez de profils plus scientifiques, plus artistiques? Comment on arrive à programmer des arts numériques?
Alors, il y a quand même une grosse... une partie du noyau dur de Arcane, où en fait, on a fait un master à Grenoble qui s'appelait Arts Sciences Technologies. Et voilà, mais au final, pas que. En fait, aujourd'hui, tout le monde est invité à rejoindre les rangs de l'équipe. On a vraiment des gens qui viennent de tout milieu, donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que c'est des gens qui sont sur Arcane, qui sont tout simplement intéressés par la création artistique de manière générale. Et puis, peut-être c'est la première fois qu'on fait une édition de DNA, on a envie d'en faire une deuxième.
C'est-à-dire que ça marche bien.
Est-ce que c'était sur une problématique particulière que vous êtes créé, de montrer les arts numériques d'une certaine façon, ou c'était plutôt par la problématique que ça manquait d'avoir ce genre de festival ici?
Bah en fait, quelque part, je pense que ça manquait. Grenoble, c'est une ville qui est connue un peu pour son paysage informatique et à la fois qui a une grande diversité culturelle. Et le seul événement qui s'en rapprochait, c'est la Biennale Experimenta, qui est une biennale art-sciences, donc qui est des fois sur des thématiques vraiment un peu différentes, même si je suis d'accord qu'il peut y avoir une confusion un peu entre les deux. Art Science, il y a la volonté de mélanger des projets scientifiques avec des projets artistiques. Nous, c'est pas vraiment la science qui nous intéresse, c'est plus cette démarche, comme je disais, de création et de détournement d'outils numériques. Donc voilà, et puis Experimenta, pour le coup, c'est institutionnel et c'est assez gros, c'est un peu international. On avait aussi envie de mettre de la visibilité sur des artistes locaux, en fait, parce qu'il n'y avait rien du tout pour ça. Il y avait des choses qui se passaient à Lyon, comme le festival Mirage. En gros, il y a tout un tas d'événements comme ça qui existent en France, et je pense qu'il en manquait un à Grenoble. Et voilà. Et puis en fait, pour vous dire la vraie histoire, il y avait eu une création de résidence qui était en partenariat avec Collectif Coin, Label Électrique et la Casemate. Donc il y avait une création de résidence sur la thématique art numérique et dont j'avais fait partie sur la première édition. Et en fait, il n'y avait pas d'événement après pour pouvoir programmer cette sortie de résidence quoi, ou continuer à ça. Donc on est parti un peu de ce constat-là avec Jérôme. Et puis voilà, l'idée, c'était vraiment à la base de faire un collectif d'artistes et intéressé par cette question-là. Et aujourd'hui, globalement, l'asso, elle est ouverte à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par le sujet. Et il y a deux thématiques vraiment sur Arcane. Aujourd'hui, en tout cas, pour DNA, il y a des artistes qui viennent de la France entière. Nous, on met toujours un accent sur des artistes locaux et émergents. Mais il y a un autre point, c'est que des artistes qui sont plus connus, plus professionnels, qui gravitent déjà dans ce monde-là, souvent, ils viennent sur DNA pour présenter des nouvelles œuvres, donc des œuvres qui sont présentées pour la première fois. Donc voilà, c'est un peu la particularité de DNA, c'est ce côté artiste émergent et œuvres qui sont présentées pour la première fois. Et il y a plein d'œuvres que moi je retrouve encore maintenant sur des festivals, que je me dis « Ah, la première fois c'était à DNA ».
Vous, comment vous faites pour les découvrir en avant-première où vous connaissez en fait certains noms et vous allez chercher
Alors oui et non, on connaît des noms mais en fait on joue le jeu et peut-être qu'on ne croira pas mais c'est vrai que on fonctionne 100% sur appel à projet. Et on est en un des rares événements, je crois qu'il y a un artiste qui nous a dit qu'on était le dernier événement français art numérique qui fonctionnait sur appel à projet. Donc nous chaque année on a un appel à projet, on a... Cette année, on a eu combien ? 120 candidatures ?
98 ou 99 candidatures. L'année dernière, on en avait eu 50, donc on en a eu le double.
Voilà. Et après, bah, voilà, on est une petite dizaine à faire le choix de ça, donc c'est vraiment du boulot. Mais on lit chacune des propositions et on trie et on choisit. Et après, bah, s'il y a vraiment des artistes qui nous personnellement nous plaisent, et ben on les invite à postuler, mais vraiment on est sur de l'appel à projet et de la programmation collégiale.
Oui, qui prend on va dire un bon trimestre, environ 3 bons mois qui sont très intéressants. Enfin, moi pour ma part j'adore ce moment où justement on se réunit pour débattre un petit peu sur les appels à projets, là, sur toutes les candidatures. Et d'ailleurs, Aurel disait qu'on est effectivement un des derniers à fonctionner comme ça. Quand on parle avec les artistes, ils nous disent que, visiblement, de plus en plus prennent le pas de la résidence, en fait, pour les artistes. Donc,
De la curation.
Ou de la curation.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est payé pour faire la programmation. Et lui, il fait son petit tour, son petit marché. Mais du coup, il fait son marché dans des œuvres qui sont déjà créées.
C'est ça.
Et puis, il fait son marché en fonction de ses critères aussi. Quand on est dans des structures plus horizontales et dans des appels à projets, on a peut-être plus la diversité et l'éclectisme qui apparaît que lorsque on se dit « Tiens, il faudrait quand même que je prenne un peu de ci et de ça ». Donc, ce marché, c'est un peu compliqué, moi, je trouve, toujours. Je voulais rebondir sur autre chose. Oui, par rapport alors à ces artistes qui arrivent, l'année prochaine, vous en aurez donc 200.
On espère.
Prévoyez.
Oui.
2 mois. Est-ce que le public, vous avez remarqué qu'il réagissait bien au dispositif interactif, par exemple ?
Alors les dispositifs interactifs, bah, peut-être Camille t'en touchera un mot, c'est toujours des fois une question problématique. Je pense que c'est souvent un problème des fois dans les musées, où quand on laisse quelqu'un tout seul face à une œuvre interactive, bah, il ne sait pas vraiment quoi faire. Nous, tout le festival, il y a toujours des gens pour accompagner le public, il y a toujours des gens qui sont là pour expliquer les œuvres, et en gros du coup ça se passe toujours très bien sur les œuvres interactives, parce qu'il y a de l'accompagnement à chaque fois.
Oui, il y a beaucoup de médiation, oui.
C'est quoi exactement une œuvre interactive ?
Ben, on laisse la possibilité au public d'interagir avec l'œuvre à laquelle il assiste. Donc ça peut être par le biais de capteurs qui déclenchent des séquences audio, vidéo. Voilà, il y a une interaction qui se crée entre l'œuvre et le public.
C'est-à-dire que concrètement, par rapport à un tableau, par exemple, un tableau est fini, c'est une forme finie. Et lorsqu'on va la voir, évidemment, nos expériences spectatorielles changent parce que chacun est sensible à autre chose. Une œuvre interactive, elle propose une sorte de
collaboration.
De collaboration, ouais. Et donc, du coup, parfois la position du corps, parfois ça peut être je sais pas, des dalles de pression, des téléphones dans la poche, ça a été fait aussi, le souffle, la chaleur du corps. On peut capter beaucoup de choses hein, du corps, on peut capter des gens dans la rue aussi et qui vont faire bouger des œuvres. Il y a des artistes qui travaillent avec le 440, les modifications du 440 influent sur les œuvres. Enfin, il y a plein de boucles comme ça qu'on peut essayer d'imaginer avec les œuvres, mais qui montrent en fait qu'on rentre dans une autre face-à-face à l'œuvre. Et en fait, je posais cette question parce que je sais que justement dans les musées, des fois, il y a des publics un peu désemparés, qui ne savent pas trop, qui attendent qu'un enfant passe, parce que l'enfant va peut-être plus spontanément interagir, et il regarde de loin cet enfant. Moi, je m'étais fait cette réflexion, mais il y a très longtemps, quand j'étais allée au ZKM, pour voir la collection d'art numérique, puisque c'est un des musées européens qui en possède. Et les adultes, ça fait 10 ans, mais les adultes attendaient le passage des enfants pour déclencher les œuvres. Donc du coup, c'est un point fort aussi, cette médiation. Faut aussi se sentir très invité, enfin sentir qu'on est invité aussi par cette médiation.
Puis qu'on a eu l'éducation qu'il faut pas toucher au musée, faut pas toucher. Voilà, on est bien sage, faut pas toucher. Mais pour donner un exemple concret, parce qu'on là on a dit beaucoup de théories sur ce qu'elle pouvait être interactif. Exemple concret, c'est Damien Traversaz qui sera exposé du coup au musée d'archéologie de Grenoble, dans le cadre du festival de cette année. Lui, son œuvre, il invite le public à venir caresser à l'aide d'une plume un objet en bois. Et en fait, quand on caresse cet objet en bois avec la plume, ça va créer du son donc qui se rapproche un peu d'un violoncelle, et à la fois créer du visuel. Et vraiment, s'il ne se passe rien, si personne ne prend cette plume, si personne ne vient caresser cette œuvre en bois, et ben il ne se passe rien. Et à la fois, vraiment, c'est le public qui vient créer un peu son histoire, son chemin, sa musique et sa vidéo.
Et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui prennent l'aléatoire ou qui font appel au public, justement? C'est quoi l'intérêt dans une création de laisser la place à l'aléatoire, par exemple?
Et c'est quoi l'intérêt pour un artiste de créer? Quelque part, je pense que dans le principe même de création et de créativité, il y a un moment où la définition même de la créativité, c'est quelque chose qui nous surprend, en tout cas qui n'existait pas avant. Et du coup, tu peux, en tant qu'artiste, décider que tu vas dessiner ça, ici, à cet endroit-là, parce que c'est comme ça que tu vas faire ton tableau. Ou alors, à un moment, tu peux essayer de trouver des techniques et des procédés qui vont te surprendre toi-même dans ton processus de création. Donc, les techniques de l'aléatoire, ça existe depuis hyper longtemps, et bien depuis avant qu'il y ait des ordinateurs. Mais la technique, les principes d'interactivité, c'est aussi... Moi, je le vois un petit peu comme ça, mais pour que l'artiste se laisse un peu surprendre du résultat qu'il va y avoir et que c'est le résultat n'est pas prévu à l'avance, quoi.
Mais est-ce que pour que ce soit considéré comme une œuvre d'art, il faut que ce soit quand même que ça vienne de cerveau humain, que ça vienne d'une volonté d'humain? Parce que c'est la question que je me pose quand je vois les IA qui sont génératrices d'images ou de contenu texte, par exemple. Et l'année dernière, vous dites que vous avez programmé des performances avec des IA. Je ne sais pas, je pense qu'elles ne prennent pas toute la place. Est-ce que le critère humain, ça compte dans la définition d'une œuvre d'art?
Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse officielle. Est-ce que la question, c'est la question juridique sur des droits d'auteur? Ou est-ce que c'est comment on définit l'art?
Ouais, c'est plutôt la deuxième.
C'est une polémique qui est en train de légiférer entre la Commission européenne, les différents pays membres, ou même Nouvelle-Zélande. Il y a plein de textes comme ça qui commencent à sortir, parce que justement, il y a eu d'autres cas d'école, on ne va pas se pencher dessus, mais il y a eu... on a fait dessiner des machines pendant longtemps. On a fait dessiner des non-humains, des animaux, par exemple. Et alors là, comme on a statué sur l'œuvre, nos musées d'art moderne sont pleins de machines qui dessinent. Ça ne nous a pas posé de problème. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop être alarmiste sur ces IA. Mais je crois que ce qu'il y a à retenir, et ce qui est assez beau dans cette interactivité, alors qu'il est peut-être défini l'œuvre, c'est que l'artiste se fait surprendre. Et moi, ce que je trouve aussi beau, c'est qu'il y a un dialogue avec l'outil. Et qu'en étant surpris, tout d'un coup, ben, parfois, on prend des pistes, des directions qu'on n'a pas pensées, qu'on ne pouvait pas penser. Et donc, du coup, c'est comme si l'outil nous faisait une proposition qu'on peut trouver dans les IA, mais qu'on peut trouver bien avant, dans le génératif, même dans l'aléatoire, dans le hasard, dans plein de gestes artistiques comme ça, qui laissent ouvert et qui ne se dit pas, tiens, je vais faire ce trait parce que j'ai décidé ce trait. Et donc, du coup, je crois que c'est la surprise et le dialogue qu'il faut garder. Et après, laissons les juristes légiférer, peut-être.
Oui, la paternité, les droits d'auteur, à qui revient la paternité. Effectivement, c'est un autre aspect, je pense, qui est secondaire. Puis au final, jusqu'à maintenant, pour les polémiques dont tu parles, Viviane, à la base, il y a quand même toujours un humain qui va donner des conditions, qui va les transmettre à un prompt, qui lui, après, va déclencher la génération d'images ou de sons, mais il y a quand même un processus humain à la base déclencheur. Donc,
voilà. En fait, pour nous qui programmons les œuvres, en fait, cette question, en fait, ce n'est pas un problème. Voilà. Le problème pour nous n'est pas, parce que nous, quand on programme des artistes qui ont une histoire à nous raconter sur pourquoi ils ont fait cette œuvre et comment ils l'ont fait. Et en fait, si demain il y a quelqu'un qui fait une image parce qu'il dit bah voilà, j'ai fait un prompt sur internet, j'ai récupéré l'image et je l'ai encadré et j'aimerais bien l'exposer à DNA, bah en fait nous on programmera pas. Et donc en fait la question elle se pose pas vraiment sur si l'outil il est pile dans les règles de l'art, du machin, de la chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les démarches, et tous les artistes qui sont programmés, ils ont tous une démarche à eux qui est unique et qui est belle et qui fait que l'œuvre en fait elle fait du sens à la fois sur le rendu, la manière dont on l'interprète, et c'est ça qui est vraiment beau.
Et cette démarche elle va être transmise au public?
Et ben, elle est transmise au public, c'est pour ça que les artistes sont sur place. Contrairement à un musée où vous n'avez pas forcément l'occasion de rencontrer les artistes, là vous pouvez rencontrer tous les artistes qui sont exposés, ils sont sur place. Après ils ne sont pas forcément à l'endroit où vous allez voir l'œuvre parce qu'aussi ils vont se balader dans le festival. Donc à chaque fois, s'ils ne sont pas là, il y a un médiateur qui est là pour parler de l'œuvre. Mais en tout cas, ce qui fait que personne n'est laissé à l'abandon face à une œuvre. Et globalement, les artistes sont dans le coin. S'ils ne sont pas là, ils sont à moins de 500 mètres. Donc, vous pourrez rencontrer tous les artistes du festival et parler avec eux.
Peut-être qu'on pourrait faire une petite pause et puis revenir sur la programmation après.
On va écouter Amélie Niles.
This is so exciting.
Et on est de retour sur le plateau de Radio Campus, sur l'apérophonie. Donc on est toujours en train de présenter le festival d'art numérique DNA avec Camille et Aurélien. On va maintenant s'intéresser un peu plus à la programmation qui va se diviser entre des expositions les 25 et 26 mai, 10 expositions il me semble. Et une soirée multidiffusion au Minimistan le 24 pour lancer le festival, c'est ça ?
Exactement.
Exactement, donc c'est la soirée performance qui aura lieu au Minimistan. Et donc c'est la soirée du coup avec des lives, des artistes en chair et en os sur scène. Sur de la programmation à la fois musique, visuelle, danse.
Oui.
Multidiffusion, ça veut dire que tous les spectacles sont diffusés plusieurs fois ou qu'il y a plusieurs spectacles en même temps, plusieurs performances en même temps ?
Oui, alors du coup, au niveau de la temporalité, ça sera des petits spectacles de 20 minutes, mais qui seront reproduits plusieurs fois pour que le public puisse déambuler... suivant les jauges aussi des salles. Il y a donc Amélie Nils que l'on vient d'écouter qui va ouvrir le bal au milieu de la cour du Minimistan.
À 20h.
À 20h. Ensuite, il y aura des performances à l'étage dans différentes salles. Et puis le closing, donc la fermeture, se fera dans une grosse salle qui est attenante à la cour, où il y aura donc une performance vidéo d'Armand Lessecq, suivi d'un concert d'Annabelle Play, de minuit à 1h du matin, grosso modo, pour le déroulé de la soirée performance.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi toute la soirée une jam. Ça veut dire que tout le monde est invité à participer ?
Alors, la JAM, alors ça, c'est un collectif grenoblois, Layers of Light, Ils vont, alors eux, ils seront du côté du bar du Minimistan et ils vont nous faire une performance de peinture augmentée toute la soirée. En continu, bon, avec quelques pauses évidemment, mais là le public est invité vraiment à participer à leur session. Donc ça sera du côté du bar du Minimistan. Voilà.
Et est-ce que cette soirée elle est payante, elle est accessible à tous?
Alors c'est une entrée libre. Voilà, les gens laissent ce qu'ils estiment être bien pour la soirée, sachant que c'est donc un prix libre et donc nous sommes gratuits sur la partie expo et officiellement la soirée lance finalement le festival pour le public. Voilà.
Et avant ça, il y aura aussi des scolaires et une partie pro aussi, il me semble.
Alors oui, il y a une journée pro le vendredi après-midi, il y a des visites scolaires du coup le vendredi matin. Et ouais, ce qui fait que la vraie ouverture publique, c'est au Minimistan, le vendredi à 15h. Et donc c'est un lieu sur place, vous pouvez aussi vous restaurer, il y a aussi un bar sur place. Et voilà, comme disait Camille, c'est une dizaine de performances qui sont chacune dans des petites salles, chacun dans un petit lieu. Donc c'est des contextes très intimistes, on est très très loin d'un format festival de musique actuelle avec une grosse scène au milieu. Donc c'est plein d'artistes à venir rencontrer. Et là, on vous a parlé de Amélie Nils et Annabelle Play, où là, on est vraiment sur du live musique électronique. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus expérimentales, comme Thomas L'Aigle, qui lui met des microphones sur des ampoules, qui l'éclairent à basse puissance, et du coup, qui fait sortir le crépitement des ampoules. Il récupère ce crépitement des ampoules pour créer de la musique techno en live. Donc voilà, quand je vous disais des démarches assez uniques, c'est comme ça. Et on a Armand Le Sec qui, lui, nous a préparé un live audiovisuel. Donc c'est un mélange de musique et de vidéo en vidéo projection. La vidéo est projetée sur nos yeux et on demande au public de fermer les yeux. Donc c'est un live vidéo pour yeux fermés.
Voilà, c'est assez original.
Et c'est filmé, comment on fait pour...
On ferme les yeux et on ressent...
Tu fermes les yeux et c'est la sensation de la lumière du vidéoprojecteur qui vient frotter tes pupilles, qui va te créer du coup cette sensation de lumière un peu dans le noir.
Mais c'est vrai qu'on sent quand il y a de la lumière ou pas, même quand on a les yeux fermés. C'est original.
Et voilà, on a aussi Sensing Memory, donc Elizabeth Walton, qui là c'est une performance de danse, donc c'est de la danse qui va pouvoir interagir avec le public à l'aide de contrôleurs, donc ce sont des machines physiques avec des boutons sur lesquels le public va pouvoir appuyer, lancer des sons et créer un duo avec cette danseuse qui est en attente de ses souvenirs. Elle a mis des souvenirs dans ses boutons, donc à chaque fois qu'on appuie sur un bouton on déclenche un de ses souvenirs et elle va danser la manière dont elle se souvient de ce souvenir.
Ça fait penser un peu... ce truc de l'aléatoire aussi, ça fait penser au jeu du twist, je crois, où on tire un dé et on doit mettre une jambe là et
le
un
twister.
Bras... Le twister. Ça me fait penser à ça automatiquement, mais j'imagine que ce sera un petit peu plus imaginatif. Ou...
Oui, ça le sera. En tout cas, le public n'est pas obligé de danser avec Elisabeth, mais juste lui rappeler ses souvenirs.
Et à côté des performances, qui sont toutes incroyables, parce que je les ai sous les yeux, je vois tout le descriptif que j'avais déjà vu, il y a une exposition avec 10 œuvres que vous avez choisies. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette programmation ?
Oui, donc le festival a lieu, donc la soirée du vendredi soir, c'est au Minimistan, et les expos ont lieu le long de la rue Saint-Laurent, donc la rue piétonne qui est à côté des quais. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une dizaine de lieux qui sont tout le long de la rue Saint-Laurent, qui sont le temps du festival, des lieux d'expo. Alors, il y a des lieux qui sont pas des lieux d'expo, comme par exemple l'EHPAD, qui est transformé de manière temporaire pour un lieu d'expo, et il y a des vrais lieux comme des musées ou la Galerie de l'Étranger. Pour faire un petit tour des expos, Camille, tu m'arrêtes quand tu veux. Il y a quatre œuvres que moi j'ai mis un peu dans la catégorie création sonore avec scénographie. Donc c'est un mélange d'objets à venir voir. En même temps, ce sont des objets sonores. Pour ça, on a les machines désirantes de Valentin Durif. Donc là, c'est vraiment presque un orchestre de machines mécaniques sur lequel il y a des moteurs qui vont venir taper sur des petites cymbales, des pièces en bois et qui vont venir créer de la musique autour de ça, mais sur des machines qui sont presque un peu de l'ordre du totem, on va dire. Et on retrouve aussi Ama, donc Damien Traversaz, l'installation avec, où le public est invité à venir caresser
Le pupitre en bois.
Le pupitre en bois pupitre. À l'aide d'une plume. On a aussi Baptiste Leroux avec une installation, pour le coup, on va dire, de l'ordre de la sculpture métallique, qui, en fait, par des systèmes de résonateurs, va venir rentrer en résonance, un peu comme un phénomène de Larsen. Et donc, voilà, c'est une sculpture métallique qui crée son propre son par résonance. Et on a Clément de Montsant, où là, c'est une œuvre électroacoustique, donc c'est un mélange de création sonore. Avec une scénographie d'ampoules qui sont disposées au sol. Et en fait, l'éclairage de toutes ces ampoules va venir réagir vraiment de manière hyper précise au son qui est de la composition.
Est-ce que c'était une volonté que vous aviez de programmer beaucoup en relation avec la matière, le matériau le test de la plume, le bois, le métal, les objets qui grincent.
Non, ça s'est imbriqué naturellement au niveau de la prog. On a vraiment été sensible à ces projets-là et puis c'est venu tout naturellement. Il n'y a pas eu une volonté de notre part de choisir tel type par rapport à un autre. Ça s'est fait naturellement.
Et encore une fois, c'est les artistes qui nous proposent.
Exactement, c'est...
Nous, on n'a jamais cherché à avoir une quelconque plume sur un objet en bois. C'est vraiment les artistes qui nous proposent et nous qui sommes attirés par ces propositions
sensibles
à la démarche en fait, qu'il y a derrière. Et là, je vous dis ça, je fais un peu des résumés, mais y a, à chaque fois, il y a vraiment une histoire que les artistes peuvent raconter sur leurs œuvres. On peut parler aussi des œuvres vidéo. Donc on a aussi Colors, Nicolas Dufour. Donc là, c'est une installation, comme son nom l'indique, très colorée. C'est pas évident de parler d'art visuel à la radio, mais en tout cas, c'est une installation qui est très forte en couleurs, vraiment sur des jeux de couleurs, de gradients de couleurs, d'animations de couleurs.
C'est un mélange de projection laser et vidéo.
Et ouais, voilà. Avec une technique qui est assez unique et pour un résultat qui est vraiment bluffant. Et on a aussi Ex Lumina. Pareil, ça, il faut le voir en vrai pour s'en rendre compte. Mais c'est du coup de l'art vidéo qui simule un peu la présence d'un corps humain derrière un drap. Je ne sais pas comment le dire avec des meilleurs mots, mais ça a l'air très intriguant. J'ai hâte de la voir en vrai. Donc voilà, c'est un mélange de travail vidéo et puis d'illusion, un peu de perception sur ce qu'on peut voir derrière un tissu. Et donc ça, c'est les deux projets un peu que j'ai mis dans la catégorie vidéo. Et puis on a des projets qui sont plus un peu de l'ordre de la sculpture, avec Chrysaura, qui sont des méduses cousues mains et suspendues et animées, qui seront dans la crypte du musée d'archéologie. Donc un des lieux un peu culte,
oui.
Pour ceux qui sont déjà allés, la crypte du musée d'archéologie. Et on a aussi le collectif Kairos avec des sculptures d'ossements numérisées qui ont en fait été altérées par un processus numérique. Donc c'est un peu comme du vivant qu'on aurait numérisé sur lequel il y aurait un virus du coup informatique qui serait venu altérer, désagréger quelque part et après c'est réimprimé en 3D. Donc là c'est vraiment sur du process de l'art plastique et sculptural. Voilà, plus d'autres artistes, Viviane Tribi ici présente, qui sera là au musée dauphinois avec les montagnes hallucinées.
Cœur des religieuses, qui est aussi un superbe endroit.
Et
Boris Duboulet aussi, qui sera donc exposé dans une galerie avec son œuvre I Disappear, qui est
qui est une œuvre tellement unique qu'en fait, il faut vraiment venir la voir parce que c'est un peu vraiment une œuvre unique. On n'a jamais programmé quelque chose comme ça sur DNA. C'est une démarche qui est... Je peux pas vous en dire, c'est vraiment à découvrir, c'est surprise.
Voilà. Mystère.
Je disparais.
Est-ce que tu veux présenter un petit peu, Viviane, les montagnes hallucinées ?
Alors rapidement, parce que je ne vais pas prendre plus de place par rapport aux autres, parce que vraiment, cette programmation, elle donne terriblement envie. Alors les montagnes hallucinées, moi j'ai rassemblé deux passions parmi d'autres, qui sont celles du dessin et celles des arts numériques, et donc des capteurs, voilà. Et je propose donc une réflexion sur notre envie de voir, de s'approcher des œuvres, cette thématique dont on parlait tout à l'heure dans les musées, comment faire avec des œuvres interactives, à quelle place doit-on être, quel geste est-on autorisé à faire. Et dans mon œuvre, les gestes créent quelque chose, modifient l'œuvre, mais modifient de manière absolue, c'est-à-dire que l'œuvre va répondre en s'effaçant. Donc du coup, j'ai mis en perspective plusieurs ressources, plusieurs sources, plusieurs inspirations. Alors les montagnes hallucinées, pour les fans de science-fiction, ils auront reconnu Tolkien quand même qu'il y a derrière, qui est une expédition scientifique qui tourne jamais très très bien, ces expéditions scientifiques, et qui arrive sur ces montagnes qui sont très prometteuses, mais peut-être un peu dangereuses aussi. Alors il y a toutes ces projections d'imaginaire sur la montagne que j'aime beaucoup. Et donc, que reconnaissons-nous de ces montagnes, et en s'approchant, qu'est-ce qu'on crée à ces montagnes ? Peut-être parfois plus de mal que de bien. En l'occurrence, ici, notre geste, notre présence va aussi venir altérer ces montagnes. Et ce qui m'intéressait là, c'est justement d'être dans l'interactif, d'être dans une réflexion sur la présence du spectateur face à l'œuvre, mais d'une présence qui n'est pas neutre, qui n'est pas anodine. Parce que finalement, tout geste de regarder, d'écouter, ben, pourquoi ça serait neutre en fait ? On est dans un partage, et je crois que c'est aussi une des possibilités dans l'art interactif que de proposer aussi une petite réflexion un peu critique, peut-être, de nos manières de voir, de nos manières d'être avec ces œuvres-là. Donc voilà. Mais faut venir.
Est-ce que j'ai juste une petite question. Est-ce que ta réflexion, elle est seulement dans l'art avec le public face à l'art, ou est-ce que c'est aussi dans la présence face à des montagnes, des vraies montagnes, comme on est entouré de montagnes là?
Alors peut-être que les deux se rejoignent, parce que je regarde, je pense, la montagne comme je regarde une œuvre d'art. Donc du coup, ça se... Mais après, il y a aussi d'autres réflexions qui m'animent, mais plus lointainement, sur le pouvoir d'une montagne. Pourquoi certaines montagnes sont sacrées, par exemple ? Et qu'est-ce qu'on fait de ces montagnes sacrées ? Pourquoi elles le sont pour certains et pas pour d'autres ? Et comment on s'approprie ces montagnes ? Est-ce qu'on a le droit de s'approprier de ces montagnes ? Etc. Donc c'est tout le statut, mais comment on pourrait penser... De la même manière, l'œuvre d'art, est-ce qu'il y a une sacralité à l'œuvre d'art ou pas ? Est-ce que c'est un objet ? C'est un grand dilemme, il y a un grand dilemme dans l'histoire de l'art, qui est, est-ce que si une œuvre de Cézanne sert de porte à un poulailler, est-ce que c'est toujours une œuvre ? Moi, ce genre de questions que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, voilà, il y a, je crois qu'il y a une circularité. C'est la question du regard, et peut-être le regard sur une montagne, que j'ai sur une montagne, va être aussi un regard sur une œuvre, et ma manière d'écouter, et ma manière d'être en présence. Donc, il y a une circularité pour moi.
Tout est mélangé.
En tout cas, pour faire un récap sur les expos, ça commence samedi à 14h, donc c'est de 14h à 20h, et dimanche de 14h à 20h. La rue Saint-Laurent, c'est une rue piétonne, où nous, on sera placés aux deux extrémités. Donc il y a l'Union de Quartier, qui a un local en début de rue, donc côté Fontaine-aux-Lions, où nous, on sera présents pour accueillir le public, donner des dépliants avec la carte et les différents lieux et les différents endroits. Et de l'autre côté, on sera côté Casemate aussi, avec notre petit QG, notre petit stand sur lequel on sera là pour accueillir le public. Donc vraiment, vous êtes libre de venir de 14h à 20h, et une fois dans la rue, bah, vous êtes libre d'aller voir les expositions que vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Toutes les expositions sont gratuites, et bien sûr, vous avez la possibilité de rencontrer les artistes en plus. et de poser les questions que vous voulez. Mais voilà, si vous venez à rue Saint-Laurent, on sera là pour vous accueillir. Est-ce que je peux faire la liste des lieux qui nous accueillent, puisque tous les lieux sont des lieux qui nous sont prêtés le temps du festival. Donc on a le musée dauphinois, le musée d'archéologie, le silo, le café des arts, donc c'est là où il y aura Clément de Mansan, c'est pas juste le café des arts, c'est l'annexe du café des arts qui est juste à droite. La maison des personnes âgées, donc l'EHPAD, le 18 rue Saint-Laurent qui est l'ex midi-minuit, le local de l'association à bientôt j'espère, et la galerie de l'étranger. Il y aura des affiches DNA sur chacun de ces lieux-là, donc vous pouvez rentrer en toute liberté.
On pourra s'y retrouver.
Et puis on peut tout de suite, même dès à présent, regarder votre site web.
Bien sûr, bien sûr. Allez sur notre site arcane.io, donc arcane.io, dans lequel vous retrouverez du coup toutes les expos et toutes les performances. Vous retrouverez aussi sur le site notre appel à bénévoles. Donc on cherche encore des bénévoles pour faire la médiation, donner un coup de main sur le montage, l'audit de montage, et vous êtes bienvenue. Il n'y a aucune connaissance technique requise pour cela. Tout le monde est bienvenu pour être bénévole. Et vous pourrez aussi trouver tous les liens vers les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, pour nous suivre. Typiquement, si vous êtes artiste et que vous voulez répondre aux appels à projets, bah, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Et il y aura aussi du coup sur des liens pour bah, nous contacter si vous voulez nous contacter, si vous avez une classe scolaire et que vous voulez faire une visite, si vous voulez monter un nouveau projet fou pour l'année prochaine. Arcane, c'est pas seulement le festival DNA, on organise plusieurs événements le long de l'année, et DNA est notre événement fort de l'année.
Et DNA, donc, c'est les 24, 25 et 26 mai 2024. Merci à vous d'être venu parler au micro de Radio Campus.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci.
On va se quitter sur les bruits des machines désirantes qui pourront être écoutées en expo ce week-end-là du 25-26. Thank you.
L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.